Je m'appelle Alice, j'ai 31 ans et on m'a diagnostiqué un cancer rare du péritoine en août 2019, une petite semaine après mes 30 ans. J'ai décidé de créer du coup le site Le Crabe pour donner un peu de sens à toute cette aventure de vie qu'a été le cancer.
Ondes de vie est une série de podcasts destinés à transmettre les témoignages de personnes atteintes du cancer. Alice, la fondatrice du site Le Crabe, partage aujourd'hui son histoire.
On m'a diagnostiqué un cancer rare du péritoine, dont le petit nom scientifique est le pseudomyxome péritonéal, en août 2019. Tout cela après un long chemin, enfin un long chemin de quelques mois de bilan de fertilité. Je cherchais en fait à avoir un enfant, je n'étais pas du tout malade, je faisais des examens médicaux pour complètement autre chose. Et ils ont découvert une masse sur mon appendice qui a dû être caractérisée après différents examens. Et cette masse s'est avérée en fait être pas une tumeur, une mucocèle qui était remplie d'un liquide un peu particulier, qui en fait a explosé dans mon péritoine. Le péritoine, c'est la membrane qui entoure tout le système digestif. Donc le liquide qui était contenu dans cette masse s'est répandu dans ma cavité abdominale et c'est donc ça qu'est le pseudomyxome péritonéal. Donc c'est un cancer rare, il touche environ 60 personnes par an en France. Donc voilà, pas de chance, c'est tombé sur moi cette année, enfin en 2019. Mais c'est pas une fatalité, enfin voilà, j'ai pu suivre le traitement qu'il fallait pour être là aujourd'hui. C'est certes un choc, mais voilà, je pense qu'on peut s'en remettre. Donc au moment du diagnostic, on passe par des états émotionnels un peu particuliers. Ça va de la colère, en disant mais ou l'injustice, pourquoi moi? C'est pas possible, je suis en bonne santé, j'ai jamais fumé. On se dit qu'il y a quelque part, voilà, que c'est pas juste. Clairement, cet sentiment d'injustice, il est vite passé à autre chose. Je me rappelle d'une phrase que m'a dit ma mère très vite après le diagnostic. Elle m'a dit mais tu sais qu'il y a des enfants qui naissent avec un cancer ou qui ont un cancer étant bébé. Et tout de suite, moi, ça m'a ramenée sur terre en disant, oula, oui, tout à fait, donc je ne vais pas me plaindre, et puis je vais juste l'accepter, en me disant, bah, c'est comme ça. C'est triste, ça, voilà, j'aurais bien aimé que ça soit autrement, mais ce n'est pas le cas, donc maintenant, il faut faire ce qu'il faut faire pour bah, aller mieux. Le plus compliqué dans mon cancer, c'est que j'étais malade sans me sentir malade. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus dur à accepter, et c'est ça qui fait que j'ai aussi du mal encore aujourd'hui, et je pense que ça durera longtemps. À vraiment avoir pleinement confiance en mon corps. C'est-à-dire que quand on se sent pas malade, mais qu'on te diagnostique un truc qui te bouffe à l'intérieur, tu te dis mince, et si j'étais pas là encore en train d'avoir un truc qui me bouffe, ou et si j'avais pas ça, et si. Donc voilà, parfois c'est compliqué, je pense que c'est le cas de pas mal de patients. Alors parfois quand on sent une masse ou une boule ou quelque chose, bon là on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de pas terrible derrière. Dans mon cas, je ne sentais rien. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été diagnostiquée très tôt. Après, le pseudomyxome, c'est un cancer qui évolue très lentement. Donc le jour où, si j'avais senti quelque chose et que j'avais toujours pas été diagnostiquée, en gros, l'opération aurait été extrêmement compliquée. Parce que la mucine, donc cette gélatine qui se répandait dans mon péritoine, elle aurait attaqué pas mal d'organes et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc j'ai eu de la chance dans ma malchance. Donc ça, j'ai décidé de le prendre du côté positif. Alors l'opération, si, elle est quand même assez complexe. C'est une longue opération. J'avais jamais mis les pieds à l'hôpital, moi, avant le bloc. J'ai été opérée en septembre 2019, donc à peine un mois, en fait, après le diagnostic. Donc j'ai eu un mois pour me préparer à un bloc qui a duré 7 heures, qui est une durée assez conséquente, je pense, pour une opération chirurgicale. Et ensuite, je pense que ce qu'il faut, en tout cas, la manière dont j'ai abordé les choses, c'est que je me suis préparée psychologiquement et physiquement à l'opération, à ce qui allait en ressortir. J'avais jamais mis les pieds à l'hôpital avant de me faire opérer pendant 7 heures, donc ça a évidemment été toute une préparation en amont. Et je pense, voilà, en tout cas, je ne me suis jamais sentie aussi sereine. C'est quand même assez incroyable, hein. Mais qu'au moment du bloc et après bloc, enfin voilà, j'étais complètement en osmose avec mon corps, dans un état un peu second, bah, je laisse faire mon corps. Voilà, je ne mettais aucune pression, je n'avais pas peur, j'ai pas eu peur de mourir, par exemple. Ça n'avait pas été quelque chose qui. Alors évidemment, la chirurgienne te le dit, hein, c'est un des risques. Le bloc peut très mal se passer. Je peux mal réagir à l'anesthésie, comme à la chirurgie, il peut se passer quelque chose au moment où ils retirent des trucs. Enfin, bref, j'ai décidé de ne pas regarder ça, de me concentrer sur ce qu'il fallait que je fasse pour aller mieux.
Un état d'esprit qui a permis à Alice d'aborder calmement l'opération le jour J.
L'opération, elle consiste en une belle ouverture du sternomopubis, donc j'ai une belle cicatrice pour m'en rappeler, pour enlever la gélatine qui s'est déversée dans mon péritoine, gratter les organes qui auront été atteints par cette gélatine, en enlever certains. Ça peut être le cas pour certains malades. Ça n'a pas été mon cas, même si on a dû faire des résections sur mon intestin et sur mon côlon, j'ai pu garder l'ensemble de mes autres organes, ce qui est quand même assez rassurant. Et ensuite, on a un principe de chimiothérapie qui est assez novateur, je pense. Je pense ne pas me tromper en disant novateur, même si ça fait quelques années déjà que ça existe. On l'appelle la chimiothérapie intrapéritonéale. Donc, j'ai eu de la chimio juste après le bloc. En fait, alors, j'étais endormie, donc je ne peux pas exactement savoir comment ça s'est passé, mais ils m'ont refermé la cicatrice. Et j'ai d'autres petites cicatrices à côté, sur mon abdomen, où ils ont mis des tubes, en fait, dans mon abdomen. Et ils ont injecté le liquide de chimiothérapie dans un bain. C'est comme, en fait, mon ventre a pris un bain de chimio après le bloc. Donc, c'était une chimio qui n'est pas passée dans le sang. C'est une chimio qui est vraiment restée dans ma cavité abdominale, qui a donc été injectée sous forme de liquide et qui est restée. Bon, je pense que le bain de chimio a dû durer 1h30. Donc, ça fait partie des 7 heures totales de bloc. Ce qui a conduit quand même à quelque chose d'assez... je vais dire rigolo maintenant, mais donc après le bloc, vu que j'avais eu de la chimio, les personnes, notamment le personnel soignant, qui venait me voir en chambre dans les jours qui ont suivi l'opération, portaient une tenue de cosmonaute, quoi, parce que j'avais eu un liquide hautement toxique, quoi. La chimio, clairement, tu ne veux pas en prendre le matin au petit déjeuner. Et donc, ils rentraient avec la charlotte, le masque, une combinaison. Voilà. Et sur la porte de ma chambre était écrit que j'étais une patiente qui avait eu de la chimiothérapie, quoi. Je n'ai pas eu à réavoir de la chimio après, parce que mon premier bilan en octobre était bon. Donc tout s'est bien passé de ce côté-là. Je n'ai pas eu non plus tous les effets secondaires qu'on peut associer à la chimio. J'ai gardé mes cheveux, ou en tout cas la plupart de mes cheveux. J'en ai perdu beaucoup, mais ils sont tous revenus aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, j'étais assez rassurée quand même de garder une certaine masse. J'ai perdu du poids, certes, mais c'est aussi lié au bloc, puisqu'on a touché à mon système digestif. Voilà, c'est un peu normal que je déguste après, mais tout ce qui est nausée, maux de tête, vertige, etc. Enfin voilà, vu que j'ai eu qu'une dose de chimio, même si c'était une dose conséquente, je pense m'en être remise quand même assez rapidement. Voilà pour la chimio. Après, l'opération, elle est quand même assez lourde dans le sens où on ouvre tous les abdos, quoi. En fait, j'avais plus rien en termes de tonus, on va dire, musculaire. Donc, on réapprend à marcher, on réapprend à se tenir droit. J'ai porté une sangle abdominale pendant 3 mois, enfin, presque 3 mois. On réapprend à s'habiller. Pendant 1 an, je n'ai pas mis de jean parce que c'était compliqué avec ma cicatrice. Je ne pouvais pas, le frottement des habits. Enfin, voilà, on réapprend plein de choses qu'on désapprend très vite, en fait. Enfin, après, ça redevient vite la normale, mais pendant les 6 premiers mois, en tout cas, qui ont suivi le bloc, j'ai vraiment fait extrêmement attention... parce que c'était là, quoi, et c'était extrêmement présent. Et c'est après, en fait, tout le chemin d'après le bloc, après l'opération, après le premier bilan positif, qui est de redescendre un peu et de soudain, tu prends conscience, en fait, de tout ce qui t'est arrivé. Et là, tu te dis, waouh, d'accord. Donc, j'ai vécu tout ça en 6 mois. Ça fait beaucoup, vraiment beaucoup. Et je pense qu'il faut du temps. Et peut-être que j'aurais pu prendre davantage de temps pour me reconstruire avant de me relancer dans le travail. Peut-être pas, peut-être que ce temps-là, en fait, je vais le prendre après. En tout cas, c'est propre à chacun, mais en fonction de sa sensibilité, en fonction de son parcours de vie avant le cancer, je pense qu'on doit tous, à un moment donné, prendre le temps juste de poser les choses et de se dire, être très bienveillant envers soi-même en se disant, maintenant, tu fais attention à toi, et puis on assimile un peu tout ça, quoi. Parce que ça crée c'est un choc traumatique énorme, quoi, le diagnostic et tout ce qui s'est passé après. Après, j'ai des flashs qui m'arrivent de l'hôpital, de ce qu'on tombe l'annonce, c'est un vrai choc. Donc il faut se l'approprier et gérer ses émotions aussi simplement que possible, parce que c'est quand même hyper complexe. Mais il faut essayer d'aborder chaque émotion, la tristesse, la colère, la peur, enfin tout y passe, hein, la joie, tout y passe. C'est un vrai ascenseur, feu d'artifice d'émotions, enfin voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est vraiment ça. Et pour le coup, pour moi, c'est venu après. Voilà, j'ai eu de la colère et de la tristesse au tout début. J'ai vite accepté et je me suis mis en mode ça va aller. Ça s'est bien passé et ouf, après on a une espèce de décompression totale où là on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment je rebondis après ça. Aujourd'hui, la seule chose qui me reconnecte à mon cancer, c'est les bilans. J'ai 2 bilans par an pour l'instant. J'en ai eu un en décembre 2020, j'en ai un prochain en juin 2020, où là j'ai une belle après-midi d'examen. Donc j'ai un scanner, un IRM, qui là nécessite des injections pour voir un peu ce qui se passe, des prises de sang pour vérifier les marqueurs, et un rendez-vous bilan avec la chirurgienne derrière pour faire le point. C'est la seule chose qui me raccroche au cancer pour l'instant, en espérant que ça ne s'en tienne à ça tout le temps. Et puis je suis suivie pendant 15 ans pour le cancer. Donc c'est un suivi vraiment sur la durée. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur, c'est qu'on a la sensation de vivre avec une épée de Damoclès, quoi, un peu au-dessus de la tête. Après, on vit tous avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On peut tous être renversés par un bus quand on sort de chez soi ou voilà, on a plein de pathologies qui peuvent nous tomber dessus comme ça d'un instant à l'autre. Mais c'est vrai que quand on a été diagnostiqué, quand on vit un peu avec cette menace, parfois elle est plus simple à porter que d'autres, ou en tout cas à accepter. Parfois on va se dire, oui, bon, c'est bon, je vis ma vie comme si c'était... Enfin, je vis aujourd'hui comme si c'était le dernier jour de ma vie, et puis on profite de chaque instant. En fait, cette philosophie-là, elle peut durer un moment, puis en fait, après, il va y avoir un peu d'angoisse et de peur qui va reprendre le dessus, puis après, on revient. Enfin, voilà, on oscille un petit peu entre des états émotionnels qui peuvent varier. Je pense que c'est le lot de tout un chacun, sans cancer d'ailleurs, mais c'est vrai que d'avoir eu cette pathologie, ça rend... Voilà, ça ajoute, je pense, une petite complexité à savoir gérer un peu le rythme infernal que peut être la vie, quoi. Lié à ça, il y a tout le côté reprise du travail, hein, qui a été quand même une période assez intéressante, on va dire. J'ai coupé complètement du travail pendant 4 mois, donc de septembre à décembre 2019, j'ai donc été absente. Et je suis revenue en janvier 2020 à mi-temps, thérapeutique. Donc je travaillais, je ne sais plus, 2 jours et demi par semaine ou 3 jours, je ne sais plus. Voilà ce qui m'a permis, c'était une vraie envie de ma part, quoi. Certains auraient pu penser que c'était un petit peu tôt. Moi je me sentais prête, ça allait occuper mes journées, parce qu'en fait quand on est tout seul et qu'on fait rien à côté, à part évidemment essayer d'aller mieux et ses rendez-vous kiné, enfin voilà, j'avais des choses à faire quand même, mais tous tes amis travaillent, tes parents travaillent, enfin bref, voilà, j'étais un peu à côté, quoi. Donc j'ai repris, ça m'a fait du bien, ça a été dur quand même, même psychologiquement. C'est quand on reprend qu'on se rend compte qu'on a été absent, et du coup ça concrétise un petit peu, enfin en tout cas moi j'ai vraiment pris une claque quand je suis revenue, en me disant ben voilà tout ce que tu as traversé en fait en 4 mois, et puis tu reviens, mais en fait rien n'a changé au travail. Ce qui a fondamentalement changé, c'est toi, mais tes collègues, bah voilà, c'est la vie continue, quoi, et c'est complètement normal. Mais du coup, il y a un vrai décalage qui s'est installé entre comment je me sentais moi, émotionnellement en tout cas, dans ma reprise de poste, et l'ambiance qu'il y avait au travail avec les étudiants qui sont toujours là, les collègues qui occupent leurs fonctions, qui étaient ravis de me revoir évidemment, mais voilà, chacun a son quotidien. Voilà, là, ça a été un peu une période d'ajustement certaine. Mais qui est importante, donc c'est quand même relativement bien passé au vu du contexte. Et puis rapidement, en fait, on a été confinés en mars, donc je suis restée à mi-temps encore quelques temps, et j'ai vite repris à temps plein en mai, vu qu'on était confinés tout seul chez nous, pour m'occuper, le boulot, ça m'a quand même bien aidée. Donc j'ai repris à temps plein à ce moment-là, et pour une vraie coupure ensuite de six semaines, pendant l'été, qui était, je pense, un enchaînement dont j'avais vraiment besoin, en fait. Il fallait couper après l'année incroyable que j'avais passée. Il fallait souffler. Et avec le recul, je me dis que, en fait, on s'en rend compte après, physiquement, j'ai vite repris le dessus sur la maladie. Parce que, à peine un mois et demi après l'opération, je ressortais boire des coups avec des copains, j'allais voir des concerts, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, voilà, tout s'est bien passé dans ma vie. Physiquement et psychologiquement, du coup, parce qu'il y a quand même des belles nouvelles. Mais dans l'acceptation de la maladie et toutes ses conséquences psychologiques, parce qu'il y en a, c'est plus long, et j'aurais peut-être eu besoin de plus de temps pour vraiment pleinement m'en rendre compte. Mais voilà, on se rend compte avec le temps. Et puis au final, aujourd'hui, je pense avoir voilà, être assez sereine pour aborder ces états émotionnels qui peuvent parfois m'arriver de manière assez, assez sereine. Je me répète un peu, mais la sérénité, c'est vraiment le mot-clé, je pense, pour gérer au mieux le périple ou l'aventure qu'est le cancer. Et donc, dans cette reprise du travail, vu que je travaille à l'école de journalisme de Lille, moi, j'ai souvent, en fait, dès le début du diagnostic, j'ai voulu me renseigner sur ma pathologie. Alors, j'ai été confrontée à un vide parce que j'ai une pathologie rare, ce qui fait qu'il y avait peu d'informations disponibles. Sur le site de l'association de patients AMARAP, il y en avait des témoignages qui m'ont aidée à bien cerner un peu l'ampleur de l'opération et des traitements. Mais voilà, pour un partage d'expérience ou juste pour discuter de manière globale du cancer, j'ai vu peu de choses, en tout cas peu de choses dans les médias généralistes, beaucoup de médias spécialisés, notamment sur le cancer du sein. Chez la femme, par exemple, il y a beaucoup de magazines ou de publications dédiées qui existent. Mais sur tous les autres cancers, pas trop. Et donc, ce qui m'a vraiment permis de... Une des manières que j'ai trouvé de donner du sens à ce qui m'était arrivé, c'est de lancer la création du site internet Le Crabe avec des étudiants, parce que je me suis aussi vite rendu compte que le cancer, il touche tout le monde, de près ou de loin. Enfin, moi, il m'a touchée de très près parce que c'était en moi, mais parmi les étudiants, par exemple, qui collaborent pour le CRAB, en fait, ils ont tous été touchés de près ou de loin par la pathologie aussi, que ce soit un proche, que ce soit parce que c'est une thématique qui les touche plus particulièrement pour X ou Y raison. Enfin, voilà. Il y a vraiment un véritable intérêt, ou en tout cas, il y a quelque chose à dire. Le cancer, on a besoin d'en parler. C'est la maladie qui touche le plus de personnes au monde. Je crois, en tout cas, c'est la maladie qui fait le plus de morts en France, en tout cas chez les hommes, et la deuxième chez les femmes. Alors c'est triste en fait d'annoncer ça, mais oui, il y a des personnes qui en décèdent, mais aussi il y en a plein qui en guérissent, et plein d'histoires de personnes en rémission, et il y a plein de parcours aussi à explorer, à mettre en avant, à mettre en lumière. Et le cancer est aujourd'hui toujours extrêmement tabou, et je pense que c'est un souci, parce qu'il ne faut pas qu'il soit tabou, il faut que les malades puissent parler, il ne faut pas qu'on associe cancer et mort tout le temps. Justement, ces données que je viens de mentionner, là, que le cancer est la première cause de mortalité chez les hommes en France, bah c'est, en fait, quelque part, c'est un peu embêtant que le cancer, on ne le pense que de cette manière-là, en disant cancer, mort. Le cancer, ce n'est pas que la mort. Le cancer, il fait tous partie de nous, le cancer, en fait. Le cancer, c'est nos cellules qui, à un moment donné, elles réagissent d'une manière un peu improbable, et du coup, elles nous rendent malades. Mais ça touche tellement de personnes à n'importe quel âge, sur n'importe quel organe, et ça peut durer de quelques mois à des années, qu'il faut en parler. Voilà, il faut absolument en parler pour montrer que ce n'est pas une fatalité, pour donner du sens aussi à tout ce que traversent les malades, les proches et le personnel soignant ainsi que les médecins. Parce que moins on en parle et plus on va en avoir peur, et moins on va s'approprier un peu ce sujet, quoi. Il faut éviter de le rendre aussi tabou qu'il ne l'est. Donc j'espère, mon objectif, c'est que le site Le Crabe, il puisse aider des personnes, que ce soit comme moi, des jeunes personnes à qui on va diagnostiquer un cancer prochainement, ou que ce soit des personnes plus âgées, que ce soit de la famille, des amis, des médecins. Et donc c'est pour ça que les catégories du site, elles ont été aussi pensées comme ça. C'est pour laisser la parole à des chercheurs, à des patients, à des associations, qu'on laisse la part belle aussi à des témoignages qui sont pour moi peut-être ce qu'il y a de plus poignant quand on pense au cancer. Donner la parole aux malades, c'est aussi extrêmement important dans les médias aujourd'hui. Quand on parle de cancer, je dis bien quand on parle de cancer, ce qui est quand même relativement rare, on donne très peu de place aux malades. On entend des chercheurs, des experts, des directeurs de centres, etc. C'est très bien, ils ont plein de choses à dire, mais ceux qui parlent le mieux, je pense, de la pathologie, ce sont bien les malades et leurs familles, et à part sur les sites spécialisés, sinon on les entend pas, et c'est dommage. Donc le CRAB, il vient aussi, j'espère, répondre un petit peu à... En tout cas, combler ce manque qui pour moi n'est pas légitime. Je pense que c'est important qu'on ait la parole, c'est important qu'on parle de la pathologie et c'est important pour tout le monde de donner du sens à ce qu'on a traversé. En tout cas, moi, pour moi, le crabe, c'est vraiment un moyen de donner du sens à l'incroyable expérience, aventure de vie qu'a été le cancer. Je décide pas de le... Pour moi, c'est pas un combat, c'est pas une guerre, c'est vraiment une expérience de vie. Je ne la souhaite à personne, mais on peut en faire quelque chose de très beau. Et voilà, la création du site web, pour moi, c'est une manière d'en faire quelque chose de beau, en espérant qu'il puisse venir en aide un maximum, et si pas une aide, au moins changer un peu la vision qu'on peut avoir de la pathologie, qui n'est pas une fatalité. Elle peut l'être, mais pas exclusivement.
L'équipe du Crabe remercie Alice pour son témoignage. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts de la rubrique Onde de vie, ainsi qu'à parcourir le site.